En Caroline du Sud, une famille est prise en otage au cours d'un ambitieux vol de banque. La police trouve des suspects. Mais on ne parviendra pas à garder le chef en prison. Le FBI et la police de quatre États américains sont déterminés à arrêter le fugitif armé, même si ce dernier est prêt à tout pour éviter la prison. Le fleuve Savannah marque la limite entre Augusta en Géorgie et Augusta Nord en Caroline du Sud. Du côté de la Caroline du Sud, un vendredi après-midi d'octobre 1995, Parker et Brenda Shaw rentraient chez eux avec leur petite fille Brianna. Ils la gardaient les vendredis après-midi parce que sa mère, Amy Shaw, travaillait plus tard ce jour-là comme caissière dans une banque. Parker tenta d'ouvrir la porte de garage, mais le dispositif d'ouverture à distance ne fonctionna pas. Ignorant que quelqu'un était tapi chez lui, il entra dans la maison pour aller ouvrir la porte de l'intérieur. Deux intrus attachaient rapidement Parker avec du ruban adhésif. Ils le forcèrent ensuite à aller dans la chambre à coucher. Dehors, Brenda commençait à s'impatienter. Brianna et elle se préparaient à aller vers la porte d'entrée quand la porte du garage s'ouvrit enfin. L'homme força Brenda à entrer dans la chambre où son mari était retenu par deux autres intrus. Les bandits prirent au couple argent et cartes de crédit. Puis celui qui semblait être le chef annonça qu'il était venu chercher Amy, la fille des Shaw, car elle travaillait à la banque. Il ajouta qu'ils allaient l'attendre. Les intrus retinrent les Shaw captifs pendant plus d'une heure. À 19h, le chef ordonna à Brenda de se rendre au salon avec lui, laissant l'un de ses hommes surveiller le mari et sa petite fille. Ils attendirent l'arrivée d'Amy en regardant par la fenêtre. Ils connaissaient l'heure exacte de son arrivée. Pour Amy Shaw, c'était un vendredi soir comme les autres. Le malfaiteur ordonna à Brenda de se rendre à la porte d'entrée. Amy fut surprise de constater que la porte était verrouillée. Elle se douta aussitôt que la situation était anormale. Le chef saisit Amy. Il lui annonça qu'il les surveillait depuis un certain temps. Il connaissait leur emploi du temps et savait à quel moment ils pouvaient être attaqués. Il interrogea ensuite Amy sur le système de sécurité de la banque.
Okay, and the codes. Okay. And do you have them? Do you have the codes?
Lors de son entraînement, Amy avait appris qu'il était plus prudent d'obéir aux ordres d'un voleur. Amy déclara qu'elle pouvait le faire entrer dans la banque, mais qu'il fallait deux codes pour ouvrir la chambre forte et qu'elle n'en avait qu'un. Il dit qu'il réglerait cette question une fois sur les lieux. Il la mit ensuite en garde. Si quelque chose ne tournait pas rond, il s'en prendrait à sa famille. Le chef de la bande annonça à ses complices qu'il se rendait à la banque avec Amy. Il leur demanda d'attendre son appel. Les parents de la jeune femme et sa fillette espéraient que le chef ne ferait pas de mal à Amy. En partant, le ravisseur retira sa cagoule pour ne pas avoir l'air suspect au public. À la pointe de son arme, Amy traversa le fleuve Savannah pour se rendre en Géorgie où était située la banque. Le malfaiteur ordonna à Amy de faire lentement le tour de la banque en voiture afin qu'il puisse voir si une équipe d'entretien ménager se trouvait à l'intérieur. En passant à côté du guichet automatique, Amy espéra que l'appareil capterait le visage de son ravisseur. Quand il vit qu'il ne courait aucun danger, celui-ci donna l'ordre de se garer près de la porte arrière. Une fois à l'intérieur, elle devrait lui expliquer ses moindres gestes afin qu'il s'assure qu'elle ne déclenchait pas le système d'alarme. Une fois de plus, il la menaça de la tuer si elle n'obtempérait pas. Une fois à l'intérieur, Amy lui montra les systèmes d'alarme qu'elle pouvait désactiver. Elle lui expliqua alors qu'elle ne pouvait pas ouvrir la chambre forte seule. Elle connaissait une des combinaisons et l'une de ses collègues connaissait l'autre. Le ravisseur rappela à Amy qu'aucun mal ne serait fait à sa famille si et seulement s'il pouvait entrer dans la chambre forte. À la maison des chats, les intrus avaient forcé la famille à rester dans le salon d'où ils pouvaient surveiller l'avant de la maison. Les chats espéraient que cette terrible mésaventure se terminerait sans incident, mais leur ravisseur était de plus en plus nerveux et prêt à tirer. D'ailleurs, un de leurs pistolets fit feu accidentellement. Les intrus craignaient que le coup de feu n'ait alerté les voisins. Ils furent encore plus inquiets quand ils virent une voiture se garer devant la maison. C'était leur autre fille, avec son mari et leur fillette, qui leur rendait visite. Ils furent maîtrisés dès qu'ils entrèrent dans la maison. Les ravisseurs devaient maintenant surveiller 6 otages. À la banque, le chef de la bande ordonna à Amy d'appeler sa collègue pour obtenir la seconde combinaison. Quand Amy lui demanda la combinaison, sa collègue hésita à la lui donner car elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Amy tenta de lui faire comprendre que sa famille était retenue captive. L'intrus lui arracha l'appareil des mains, menaçant la collègue d'aller chercher lui-même la combinaison. La collègue donna finalement la seconde combinaison pour protéger Amy. Le ravisseur garda la collègue en ligne pour s'assurer qu'elle n'appellerait pas la police. Amy introduisit en tremblant la deuxième combinaison. Mais la chambre forte ne s'ouvrit pas. Amy fit une nouvelle tentative. La porte s'ouvrit enfin. Le voleur s'assura qu'Amy garderait sa collègue au bout du fil. Il lui ordonna ensuite de lui indiquer quel casier contenait l'argent classé par numéro de série et lesquels contenaient des sachets de teinture prêts à éclater. Il n'y toucha pas. Après avoir pris l'argent, le ravisseur d'Emmy lui ordonna d'appeler ses parents sur une autre ligne. Le chef ordonna à ses complices de faire ce qu'il fallait à la maison, de partir et de l'aviser par téléavertisseur une fois en sécurité. Il s'enfuit avec plus de 86 000 dollars. Quand il fut parti, Amy déclencha le système d'alarme pour qu'on vienne l'aider. Puis, pétrifiée d'angoisse, elle appela chez ses parents. Sa mère lui ordonna de ne pas appeler la police. Les hommes armés étaient toujours là. Mais il était trop tard. Les hommes s'assurèrent que les membres de la famille étaient encore ligotés. Ils semblaient sur le point de partir. Mais l'un d'eux hésitait. Il y avait 6 témoins gênants à ce crime. À 20h, les agents du service de police de Richmond County répondirent à l'appel de la banque en Géorgie pour apprendre que le crime le plus grave avait été commis de l'autre côté du fleuve. L'enquêteur en chef était Kenneth Booth.
On a transmis toutes les informations au bureau du shérif d'Edgefield County en leur disant que la famille était peut-être encore captive.
L'enquêteur Don Bullock du bureau du shérif d'Edgefield County en Caroline du Sud prit l'appel.
C'était un cas de prise d'otage. Pour nous, c'était un code 1, ce qui signifie qu'on doit se rendre sur les lieux le plus vite possible.
La famille avait appelé pour dire que les hommes étaient partis, mais les policiers devaient s'en assurer. Les agents fouillèrent la maison pour s'assurer qu'il n'y avait plus d'intrus.
Ils étaient sains et saufs. Physiquement, ils étaient en santé, mais mentalement, c'était une autre histoire. Ils avaient traversé une grosse épreuve.
Les chats décrivirent les hommes du mieux qu'ils le purent. Ils n'avaient pas vu leur visage. Ils savaient seulement qu'il s'agissait d'hommes de race noire. Ils étaient armés et agressifs. L'un d'eux avait braqué son arme sur Parker Shaw. Mais il n'avait pas tiré. Une fois leurs assaillants partis, les chats s'étaient libérés de leurs liens et ils avaient attendu l'arrivée des policiers. Parker déclara que les hommes avaient pris les clés de la voiture de son gendre. Il décrivit également leurs vêtements. Les policiers transmirent l'information à toutes les unités de patrouille. Comme c'est toujours le cas lors d'un vol de banque, les autorités de Richmond County avisèrent le FBI. L'agent spécial Jerry Jones, du bureau d'Augusta en Géorgie, rencontra Amy pour l'interroger. Elle lui décrivit le chef de la bande et lui indiqua dans quelle direction il était parti. Elle déclara qu'elle croyait qu'un appareil avait capté son image et parla à l'agent Jones de la caméra du guichet automatique à l'extérieur de la banque.
Elle avait tenté de le faire s'approcher suffisamment pour que l'appareil puisse capter son image. Malheureusement, celui-ci n'était activé que lorsque quelqu'un introduisait sa carte bancaire dans le guichet. Ça n'a donc pas fonctionné.
Les caméras à l'intérieur ne l'avaient pas filmé non plus. L'enquêteur Bullock arriva sur la scène du crime à Augusta Nord, où les experts le mirent au courant de l'état de la cueillette des indices. Des techniciens de la division des autorités policières de la Caroline du Sud avaient relevé des empreintes huileuses de chaussures sur le sol du garage et les avaient photographiées pour d'éventuelles comparaisons. Dans la maison, les techniciens trouvèrent la douille du projectile tiré dans le salon. Elle provenait d'un pistolet de calibre 38, mais il n'y avait aucune empreinte digitale. Toutes les tentatives pour relever les empreintes digitales des assaillants échouèrent. Ceux-ci portaient des gants qu'ils n'avaient jamais ôtés. Au bout de l'allée, les enquêteurs trouvèrent un véhicule coincé dans le fossé.
Quand les deux suspects ont quitté la maison, ils voulaient prendre une voiture et ils sont revenus à l'intérieur chercher la clé d'une des victimes. En faisant marche arrière, ils sont tombés dans le fossé et ne sont pas parvenus à en faire sortir la voiture. Ils ont donc dû partir à pied.
Les techniciens trouvèrent des empreintes digitales inconnues dans la voiture. Autant d'indices qu'ils pourraient comparer plus tard à d'éventuels suspects. Non loin de la maison, ils trouvèrent de nombreux objets qui, croyaient-ils, avaient été abandonnés par les assaillants en fuite. Il y avait de nombreuses armes, notamment un fusil de chasse et un Magnum 357. Des vêtements, des cagoules et des gants trouvés dans les buissons correspondaient à la description des vêtements des assaillants. Sans ces vêtements, les suspects ne ressemblaient guère à la description transmise aux unités de patrouille. Les policiers mirent toutefois les informations à jour. Il s'agissait de trois hommes de race noire, deux sans doute à pied et un autre à bord d'une berline bleu foncé. Ils étaient armés et dangereux. En 1995, les autorités de la Caroline du Sud et de la Géorgie étaient à la recherche de trois hommes qui avaient retenu en otage les membres de la famille Shaw et volé une banque. Moins d'une heure après l'appel au service d'urgence, un policier qui n'était pas de service se rendait à la maison des Shaw quand il entendit sur sa radio la nouvelle description des suspects. Il aperçut alors deux hommes qui correspondaient quelque peu aux informations et qui s'éloignaient du secteur.
Hey guys, let me talk to you for just a second. Where are you guys coming from?
Le policier interrogea les deux hommes comme nous le raconte l'enquêteur Don Bullock.
Il leur a demandé ce qu'ils faisaient là. Ils ont répondu qu'ils revenaient du terrain de l'église où ils avaient joué au basket. Or, ils n'avaient pas de ballon et ils étaient à pied.
Des renforts arrivèrent rapidement. Les policiers savaient que le terrain de basket à côté de l'église n'était pas éclairé.
Il était tard et il faisait noir. Il a vite compris qu'il s'agissait sans doute des suspects.
Les deux hommes acceptèrent de se rendre à un poste de relais de la police près de la maison des Shaw pour y être interrogés. On les identifia comme étant Daniel Evans et Lamarco Roscoe. À la banque, l'agent spécial Jerry Jones apprit que deux hommes étaient détenus provisoirement.
J'ai décidé de quitter la banque quand j'ai vu que la caissière était en sécurité. J'ai traversé en Caroline du Sud pour y interroger les deux suspects.
Jones arriva au poste de relais presque au même moment que les suspects. L'enquêteur Kenneth Booth et lui savaient qu'il était préférable de les interroger séparément.
On les a séparés parce que généralement, ça les décontenance. Ils se demandent ce que l'autre a dit. Quand ils se rendent compte que l'autre a peut-être parlé avant eux, ils commencent à collaborer.
les deux hommes avaient été incapables de décrire l'église où ils prétendaient être allés jouer au basket. Les enquêteurs avaient le sentiment qu'ils étaient mêlés au crime. L'agent spécial Jones commença par interroger LaMarco Roscoe.
D'abord, vous tentez de découvrir ce qui pourrait leur faire peur. Ont-ils quelque lourd secret à cacher ou quelque chose de ce genre? Dans ce cas-ci, ce qui a impressionné Roscoe, c'était la possibilité qu'il soit condamné à mort.
Jones savait qu'Amy était en sécurité, mais il était prêt à parier que Roscoe, lui, ne le savait pas. Il lui dit alors qu'il se préoccupait beaucoup de la sécurité d'Amy.
Je lui ai dit que si le troisième assaillant tuait la jeune femme, il risquait la chaise électrique pour complicité dans ce vol. Je ne lui ai jamais menti. Ma principale préoccupation, c'était la sécurité et le bien-être de la caissière. De plus, je ne mentais pas en lui disant que si le troisième ravisseur tuait Amy, lui et son complice pourraient être condamnés à mort.
Le suspect ne tarda pas à reconnaître qu'il était impliqué dans le crime. Quand on lui demanda comment s'appelait le chef de la bande, il déclara qu'il ne le connaissait que par son prénom, Chris. Il croyait que la première lettre de son nom de famille était un J.
Un autre des policiers connaissait bien les voyous d'Augusta. Il a reconnu ce nom et lui a demandé s'il parlait de Christopher Jaberk. Le suspect a répondu que c'était bien lui.
Jones interrogea ensuite l'autre homme, Daniel Evans.
Je lui ai dit que son complice était déjà passé aux aveux et il m'a immédiatement raconté ce qui s'était passé ce soir-là. Je voulais qu'il me confirme le nom du troisième complice de son propre chef et il m'a tout de suite dit qu'il s'appelait Christopher Jaberk.
En parlant à Roscoe et Evans, les enquêteurs se rendirent compte que les deux hommes étaient sous les ordres de Jaberk.
Ce n'étaient pas eux, les cerveaux qui avaient orchestré toute l'affaire. Ils ne savaient pas grand-chose de ce qui se tramait, si ce n'est ce qu'ils avaient fait au cours des derniers jours. Cela avait principalement consisté à accompagner Jaberk à plusieurs reprises à différentes banques et à échafauder le plan de ce vol.
Après qu'il eut terminé les interrogatoires préliminaires, Jones apprit qu'on avait trouvé le numéro de téléphone d'un téléavertisseur sur l'un des deux suspects. Il demanda à l'un des agents de composer ce numéro. Quand le propriétaire du téléavertisseur rappela, le policier s'identifia. Son interlocuteur lui dit alors qu'il s'appelait Chris Jaberk. Il déclara qu'il se trouvait à 150 km de là, au Mont Vernon, en Géorgie. Jaberk était sur la défensive, et avant de raccrocher, il demanda au policier si celui-ci l'accusait de quelque crime. Les enquêteurs se rendirent sans tarder à la maison de Jaberk.
Il était bien connu des autorités, et les policiers savaient déjà où il vivait.
S'il était le chef de la bande, il savait maintenant qu'il était recherché par la police. Avec une bonne avance et 86 000 dollars en argent liquide, Christopher Jaberk pouvait être n'importe où. En octobre 1995, les autorités étaient à la recherche de Christopher Jaberk suite à un enlèvement et à un vol de banque à main armée. À la requête des agents du FBI et des policiers de Richmond County, la mère de Jaberk l'appela sur son portable pour lui demander de venir parler aux autorités. Vers 1h du matin, il arriva, accompagné de sa petite amie. Bien qu'âgé d'à peine 19 ans, Jaberk était déjà en liberté conditionnelle pour 5 ans pour vol et évasion d'un centre de détention. Les enquêteurs l'emmenèrent pour un interrogatoire. La petite amie de Joe Burke accepta de l'accompagner. Au bureau du shérif, l'agent spécial Jerry Jones interrogea Joe Burke à propos de la prise en otage de la famille Shaw et du vol de banque en Géorgie. Joe Burke reconnut qu'il connaissait les deux bandits qui étaient passés aux aveux, mais il nia être impliqué dans ce crime. Il déclara qu'au moment du vol, il se trouvait au Mont Vernon en Géorgie avec sa petite amie et une autre jeune femme.
Joe Burke nous a dit qu'il était parti avec sa copine pour aller chercher l'autre femme et qu'il n'était revenu que plus tard à Augusta. Il a déclaré avoir été en compagnie des deux femmes toute la journée, même après être revenu à Augusta. Ils seraient allés voir un film tous les trois.
Jones interrompit momentanément l'interrogatoire pour aller poser quelques questions à la petite amie de Joe Burke qui était venue au poste à la demande des enquêteurs.
Les deux jeunes femmes n'ont pas corroboré cet alibi.
Les autorités fédérales inculpèrent alors Joe Burke de vol de voiture, d'enlèvement et de vol de banque à main armée. Voici l'enquêteur Kenneth Booth de Richmond County.
Après plusieurs interrogatoires, Joe Burke a finalement commencé à collaborer avec nous. Il nous a avoué qu'il avait participé au vol et à l'enlèvement. En fait, il nous a dit que c'était lui qui l'avait commis, mais il a nié avoir tout orchestré. Il a ajouté qu'il faisait partie d'une organisation criminelle très importante et qu'il ne nous révélerait rien d'autre parce qu'il craignait pour la sécurité de sa famille.
Les complices de Joe Burke, Daniel Evans et LaMarco Roscoe, plaidèrent coupables à des accusations d'enlèvement et de vol à main armée. Ils furent tous deux condamnés à une peine de 30 ans de réclusion. Quant à Christopher Joe Burke, il fut poursuivi en justice par l'assistant du procureur, Richard Goolsbee.
Le seul problème dans cette affaire, c'était qu'on ne disposait d'aucune preuve scientifique. Chaque fois qu'on recevait un rapport de labo relatif à des empreintes digitales ou des traces de pas, on se retrouvait dans une impasse. Aucune d'elles ne correspondait à celle de Joe Burke. Heureusement, la cassière de la banque et les autres membres de sa famille étaient d'excellents témoins. Ils nous ont aidés à remporter cette cause.
Joe Burke fut reconnu coupable de 6 chefs d'accusation, ce qui le rendait passible d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans l'attente de connaître sa peine, Joe Burke fut détenu dans une petite prison de comté. Il y fit la connaissance d'un détenu. Jerome Frierson Bay, un autre voleur de banque, attendait son procès pour 3 vols à main armée. La prison du comté faisait alors l'objet de travaux d'agrandissement. Les hommes avaient beaucoup de temps pour planifier une évasion. Le 27 mars 1996, un gardien qui patrouillait comme à l'habitude remarqua une porte ouverte. On constata que 2 prisonniers manquaient à l'appel. Christopher Joe Burke et Jerome Frierson B. Des ouvriers avaient vu 2 prisonniers courir en direction d'un boisé non loin de la prison. Des équipes de recherche ratissèrent les bois, sans succès. Les équipes étendirent plus loin leurs recherches dans les bois et les marécages. Des hélicoptères survolèrent méthodiquement la zone, mais on ne trouva rien. Pendant qu'on poursuivait les recherches, les policiers d'Edgefield County en Caroline du Sud commencèrent à vérifier sporadiquement la maison des Shaw pour s'assurer que tout était normal.
J'étais convaincu qu'il reviendrait chez sa mère. On a donc commencé une opération de surveillance de 24 heures par jour de la mère de Joe Burke et de sa petite amie.
Les autorités veillaient au grain, mais Joe Burke ne se montra pas. Doug Fender, alors agent spécial pour le FBI, tomba sur une piste intéressante.
Avec d'autres enquêteurs du secteur, nous menions une enquête sur un vol d'auto dans la région d'Augusta. Il s'agissait d'une Mitsubishi Eclipse verte. Un détenu de la prison nous a alors indiqué qu'il avait cédé ce véhicule volé à l'une des amies de Joe Burke.
Les agents interrogèrent la jeune femme à l'hôtel où elle travaillait. Elle commença par dire qu'elle ignorait tout de l'évasion, mais l'agent Fender se montra persuasif. Quand elle comprit qu'elle risquait la prison, elle reconnut avoir aidé au succès de l'évasion. Elle déclara que la petite amie de Joe Burke et elle avaient laissé une voiture voler dans un parc de stationnement près du boisé jouxtant la prison.
Après son évasion de la prison, il n'a eu qu'à se rendre jusqu'à la voiture et à s'enfuir avec Frierson Bay. Ensuite, comme prévu, ils se sont rendus à un campement préparé à leur intention par les deux jeunes femmes. Ils y ont trouvé des vêtements, de l'eau et tout le nécessaire.
Les évadés trouvèrent facilement les vêtements, aliments et armes qui les attendaient. Ils étaient libres, mais ils avaient besoin d'argent. Ces voleurs de banque savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Le lendemain, une voiture correspondant au véhicule volé se gara devant une banque de Lumberton en Caroline du Nord, soit à 350 km au nord-est de la prison. Deux hommes portant chapeau, gants et lunettes fumées dévalisèrent la banque à la pointe d'un fusil. Les employés obtempérèrent pour éviter qu'il n'y ait des victimes. La police de Lumberton et les agents du FBI de la Caroline du Nord se rendirent sur la scène du crime. Ils constatèrent que les voleurs étaient partis avec 4 500 $. Des caméras de sécurité avaient filmé toute la scène. Les images étaient trop floues pour qu'on puisse discerner les visages des voleurs, mais les descriptions qu'en avaient faites les employés correspondaient à celles de Joe Burke et de Frierson Bay. De plus, la voiture dans laquelle ils avaient pris la fuite était la même que celle des fugitifs. Cette voiture était le meilleur indice pour les retrouver, selon l'agent Doug Fender.
On a introduit la description de cette voiture dans la base de données nationale. On a découvert que les policiers de Lumberton, en Caroline du Nord, l'avaient retrouvée.
Une heure plus tard, les agents reçurent le rapport d'une intrusion dans une maison à Lumberton et d'un vol de voiture. Ils interrogèrent les victimes. Un homme et sa femme effectuaient des réparations sur leur voiture dans le garage quand deux hommes armés avaient fait irruption, exigeant des vêtements de rechange et les clés du véhicule. Et ils étaient aussitôt repartis. Le couple identifia Joe Burke et Frierson Bay parmi les photos de plusieurs hommes.
On a ensuite transmis la description de ce deuxième véhicule.
Pour retrouver les deux complices, on dut suivre la piste des banques qu'ils dévalisaient.
On a remarqué que plusieurs banques avaient été volées le long de l'autoroute 95. Durant la période où l'on suivait Frierson Bay et Joe Burke, on les soupçonnait d'avoir dévalisé entre 11 et 14 banques sur la côte Est.
Lors de ces vols, les caméras avaient capté l'image d'un ou deux hommes correspondant à la description des fugitifs.
Grâce aux enregistrements magnétoscopiques et aux identifications de témoins, nous avons pu établir que les deux hommes étaient encore ensemble en arrivant dans le secteur de Fredericksburg, en Virginie.
Les agents concentrèrent leurs efforts au New Jersey, où vivaient des proches parents de Frierson Bay.
En nous basant sur des informations fournies par le public suite à la diffusion d'une émission, on a retracé Frierson Bay dans un motel de Patterson au New Jersey. Les agents du bureau du FBI de cet État ont commencé à le surveiller. Quand ils ont pu établir que le suspect habitait dans cette chambre de motel, ils ont décidé de rester sur les lieux.
S'il était armé, il pouvait être dangereux de s'approcher de la porte de sa chambre. On décida donc d'attendre qu'il sorte. Bientôt, les agents apprendraient à leurs dépens que le fugitif ne se laisserait pas capturer sans se battre. Après que deux évadés eurent commis une série de vols de banque à main armée, les agents croyaient avoir retracé l'un d'eux, Jerome Frierson Bay, à un motel du New Jersey. Après quelques heures d'attente, ils aperçurent le fugitif. Pendant qu'il se rendait à sa voiture, une unité SWAT passa à l'action. Il verrouilla la voiture de l'intérieur, mais cela n'allait pas arrêter l'équipe, comme nous le raconte l'agent spécial Doug Fender.
Un des hommes de l'unité SWAT a fracassé la vitre de l'auto à l'aide du manche de sa mitraillette. Frierson Bay a ensuite été sorti de force du véhicule.
Dans la voiture, les agents trouvèrent un pistolet semi-automatique Glock de calibre 40, chargé, de même que $1,500 d'argent volé. On fouilla dans sa chambre de motel, mais on ne trouva aucune trace de Christopher Joburg, son complice. Jerome Frierson Bay plaida coupable à 10 vols de banque à main armée et fut condamné à 19 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Il déclara qu'il ignorait où Joburg se trouvait. Pour l'agent spécial Jerry Jones du FBI, retrouver Christopher Joburg était sa priorité numéro un.
On croyait que Joburg et Frierson Bay étaient partis chacun de leur côté et que Joburg était retourné en direction de la Géorgie. J'ai toujours pensé que Joburg rentrerait chez lui.
Le FBI offrit alors la récompense de $10,000 et ajouta le nom de Joburg à la liste des 10 hommes les plus recherchés quand une téléspectatrice fournit une piste prometteuse. Selon elle, le fugitif habitait avec son pasteur à Atlanta, bien que celui-ci ne sût pas que Joburg était un criminel. Elle était tombée sur Joburg en vérifiant l'état de la maison du pasteur après que celui-ci eût été hospitalisé à la suite d'une défaillance cardiaque. Une équipe d'arrestation surveilla la maison en se faisant passer pour des jardiniers. Le 9 mai 1996, un véhicule se gara dans l'entrée de la maison du pasteur. Quand le conducteur en descendit, les agents le reconnurent immédiatement. C'était Joburg. L'équipe d'arrestation passa à l'action. Pris par surprise et piégé, Joburg ne put s'enfuir. En le fouillant, les agents trouvèrent $2,000 dans une de ses chaussettes. Il fut remis en détention en attendant sa sentence suite au vol de banque et à l'enlèvement à Augusta.
Quand Joburg a été arrêté à Atlanta, la pression sur nos épaules s'est dissipée et on a poussé un long soupir de soulagement. On a tous pu rentrer chez nous, mais pas pour longtemps.
Le Joe Burke refusait d'abandonner. Six semaines après sa capture, il s'échappa de nouveau de sa cellule.
Quand Joe Burke s'est évadé, on m'a téléphoné. Je me suis rendu à la prison pour tenter de préserver tout indice qu'il aurait pu laisser derrière lui. On a trouvé un morceau de lame de scie. Il était sorti par la fenêtre de sa cellule pour se retrouver dans une cour protégée par une double grille recouverte d'un protecteur à accordéon. Il a dû passer par-dessus cette grille et ce protecteur à accordéon.
Les agents fouillèrent le terrain et examinèrent la grille dont le haut était surmonté de barbelés coupants. Ils trouvèrent les fragments d'un uniforme de prisonnier.
On y a relevé des traces de sang. On savait donc qu'il s'était blessé, mais il était à pied.
Il fallait espérer qu'il n'était pas loin.
On a commencé à suivre sa trace dans un secteur rural et boisé qui menait à un secteur marécageux d'environ 25 km². Même si je n'étais plus tout jeune, je suis resté avec l'équipe pendant plusieurs jours et l'on a cherché en vain. J'ai alors pensé qu'on pourrait peut-être le retracer à l'aide de matériel électronique. J'ai contacté la commission de l'énergie atomique située en Caroline du Sud et ils m'ont fourni un hélicoptère équipé d'un système infrarouge qui est sensible à la chaleur.
L'équipe fouilla des dizaines de kilomètres carrés avec cet équipement ultra-performant. Mais Joe Burke échappa à la détection. Il courait toujours. Quatre jours plus tard, un policier en congé à Epling, en Géorgie, crut apercevoir le fugitif. L'homme boitait comme s'il était blessé. Le policier appela ses collègues au poste et ceux-ci vinrent prendre position dans tout le secteur.
On l'a trouvé dans un secteur boisé, derrière une école, où on l'a arrêté.
Christopher Joe Burke était de nouveau en détention. Deux semaines plus tard, il fut enfin jugé coupable du vol d'Augusta, de l'enlèvement d'Amy Shaw et de la prise d'otage de la famille de celle-ci. L'assistant du procureur Richard Goolsbee fit l'impossible pour que Joe Burke ne retourne jamais dans la société.
Notre rôle consiste à protéger la population. C'est notre plus importante responsabilité. Nous étions donc très préoccupés par cette affaire et nous voulions qu'il écope de la peine maximale. Par bonheur, la Cour l'a condamné à la peine maximale, ce qui consistait en la prison à vie plus 5 ans.
Joe Burke fut condamné à purger sa peine à la prison fédérale Leavenworth au Texas. Sans possibilité de libération conditionnelle, sa seule chance de recouvrer la liberté serait de s'évader. Quelques semaines après sa sentence, on trouva Joe Burke alors qu'il faisait une autre tentative d'évasion, accroché sous le camion d'une blanchisserie. Il était pratiquement parvenu à se rendre à la grille d'entrée. Joe Burke fut ensuite transféré au pénitencier fédéral à sécurité maximale d'Atlanta, en Géorgie.
Même si Houdini se trouvait au pénitencier d'Atlanta, il ne pourrait pas s'en échapper. Et Christopher Joe Burke n'a rien d'un Houdini.
Personne ne doute que Joe Burke n'essaie encore de prendre le large. Mais maintenant, il est détenu dans l'une des prisons les mieux gardées d'Amérique.